Chers amis, bienvenue à l'écoute de votre radio pour un nouveau passage de la vie de Saint François. La Terre Sainte. Il marcha à pas prudents et respectueux, comme si chacun de ses pas eût fait sourdre du sol une musique. À cinq, ils allèrent visiter l'étable de Bethléem. François y fêta la nuit de Noël dans la grotte où naquit Jésus. Douceur plénière, bonheur radieux. Ils pleuraient et riaient tour à tour. Ils baisaient le sol, les murs, l'air. Ils rampaient à genoux, criant, chantant. Puis redressé, il levait les bras au ciel avec des sanglots. Et les frères, qui le voyaient ainsi, à la lueur d'une petite torche, ne savaient ce qu'ils devaient admirer le plus de cette heure sainte ou du cœur de François. Et son véhément amour échauffant son imagination, il voyait vivre devant lui l'événement sacré. Dieu, ici, s'est fait homme. Dieu qui lance à travers l'immensité les étoiles comme des tourbillons de neige, Dieu qu'on attendait dans un château de brillants, naquit dans une grotte moisie, dans la pauvreté la plus obscure, plus misérablement qu'un enfant d'une impasse. « Mes petits frères, cria François, ici se trouve la crèche avec l'enfant dedans, et ce n'est qu'une pelote de lumière, comme si ce n'était pas encore tout à fait un homme. Et voilà Marie, notre douce et pauvre mère, gisant sur un peu de paille, et elle est pleine de ciel, maintenant qu'elle a mis sur terre le ciel formé de son sang. Et voilà Joseph, debout, tremblant de bonheur. Écoutez chanter les anges, vous les voyez à travers la roche. L'air est rempli de leur lumière et de leur beauté. Ils sont rangés jusque par-delà les étoiles. Il n'y a plus de limite entre la terre et le ciel. Ils chantent. Le globe entier en résonne avec tout ce qu'il contient, jusqu'aux poissons et aux coquillages dans la mer. Ô suave mystère! Et voici les bergers à genoux, leurs mains grossières jointes et leur rude front tendu. Et alors soudain il cria, « Enfant divin, nous voici à genoux. Nous aussi nous sommes de petits bergers, mais nous ne portons ni œufs, ni lait, ni gâteau. Prenez notre cœur qui essaie d'être de bonne volonté. » Nous sommes des mendiants pour votre amour. Nous mendions nos tartines de porte en porte. Ô divin enfant, donnez-nous un peu de cette musique, de votre lumière, de votre amour de la pauvreté, un peu pour nous et un peu à emporter pour nos brebis. Petit Jésus, petit Jésus. C'était trop de délices à la fois. Les mots se brisaient dans sa bouche. Il s'affaissa doucement sur le sol froid, et demeura longtemps à gémir et à sangloter jusqu'à ce que l'aube montât glacée.
Thank you.
Nazareth, petite ville blanche sur la colline verte. Dans une de ces maisonnettes blanches habitait Marie, dans le silence et la prière. Simple comme elle était, elle est descendue par ce sentier vers la fontaine, une cruche à la main. C'est à une heure pareille à celle-ci, mouillée de gouttes de rosée, que la chose se sera passée sous un palmier. Un ange s'est agenouillé tout à coup devant elle, lui apportant le grand message. Et parce qu'elle était si pure et si tranquille, elle a su dire « Comme il plaît à Dieu ». Et à ces mots, Dieu commença de fleurir en son corps. Il ne pouvait s'incarner qu'en celle en qui régnait ce silence et cette pureté. Là-bas, par-delà ces montagnes, elle est allée, en chantant, visiter sa cousine Élisabeth, où Jean salua Jésus en Marie. François, qui souffrait beaucoup d'une ophtalmie causée par le soleil trop ardent, se protégeait les yeux de sa main et chantait le Magnificat sous le palmier. Les habitants du bourg regardaient un peu en dessous ces cinq hommes blancs. Que venaient faire là ces étrangers, tandis que les fils de la contrée se faisaient massacrer quelque part par les intrus d'Europe? François montra le sceau et le corps. Les gens se radoucirent, leur présentèrent même des figues, du fromage et du pain. Et maintenant, en route pour la grande ville. François précédait toujours ses compagnons d'une portée d'arbalète. De nouveau, il était le chevalier, le conquérant. D'une haleine, il gravit le mont. Là-bas, inondé de soleil couchant, Jérusalem. Il sonna du cor, ôta ses sandales et se prosterna le front dans la poussière. Pour ces cinq hommes pauvres jusqu'aux os, les mains vides, mais le cœur rempli d'amour, toutes les portes s'ouvraient, tandis que les autres, armés de piques et de sabres, étaient hachés en miettes par milliers. C'est que, dans le cœur de ces autres, il manquait quelque chose. Vendredi saint, ils y aspiraient depuis des semaines. Sur le Golgotha, où s'était dressée la croix, François se tenait avec ses frères, les bras étendus et les yeux sanguinolents. Il avait passé la nuit au jardin des Oliviers et ses larmes incessantes avaient irrité le mal de ses yeux. Des larmes, il en versait encore sur son visage, tiré et blême, aux joues creuses, aux lèvres pâles. On eût dit un Jésus mourant. Il se dressait là comme une croix, et de sa bouche ouverte montait la plainte. « Laissez-moi mourir pour vous. Laissez-moi souffrir avec vous. Souffrir une goutte de moins de votre passion. Une goutte est peut-être encore trop pour un homme. Des centaines y succomberaient. Donnez-moi du moins la souffrance dont je suis digne. » Et comme dans une vision, il voyait se dérouler les phases de la passion, il entendait la chair se déchirer, craquer les muscles, dégoutter le sang. Laissez-moi mourir pour vous. Il se tenait encore là, au milieu de ses frères prosternés, quand tomba la nuit. Alors ils sont allés au Saint-Sépulcre, où, immobiles comme des statues de pierre, ils ont prié toute la nuit. Le jour de Pâques, comme les yeux bandés, il embrassait ses frères. « Je crois, dit-il, que ces jours-ci, j'ai vidé mes yeux de leur lumière à force de pleurer. Maintenant, j'aurai l'occasion de regarder beaucoup en dedans. C'est là que nous voyons Jésus le mieux. » De la terre promise, on le transporta avec beaucoup de précautions chez Élie, à Acre, en Syrie. on eût dit qu'il avait bu la lumière du ciel. Son âme était gonflée comme un raisin de grâce. Mais son corps s'était miné. Il était presque aveugle, avec des yeux comme des cerises gercées. La fièvre l'avait épuisé. Le jeûne, les macérations, les fatigues excessives, vieilli de 10 ans. Il était incapable de se tenir debout, de s'agenouiller. Le petit couvent était une maison d'arabe abandonnée, blanchie à la chaux contre la chaleur. Il voulut qu'on le couchât à l'extérieur, face à la mer, sous un abri de chaume. Une maison lui semblait trop belle pour lui. Élie le soignait comme une mère son enfant. On eût dit un vrai médecin. François ne cessait de prier pour ses petits frères qui étaient loin là-bas où se couchait le soleil. Il aspirait à sa guérison uniquement pour les pouvoir rejoindre. Un soir, Élie vint à lui avec les frères d'un air gêné et triste. « J'apporte une mauvaise nouvelle, » dit-il. « Les 5 frères que vous avez envoyés au Maroc, le Mirmelin leur a tranché la tête. » Il y avait un reproche dans les paroles d'Élie. Mais François se redressa en sursaut, guéri à moitié. « Quel bonheur !» s'écria-t-il. « Quelle grâce ! Désormais, je peux dire en toute vérité que j'ai 5 frères. Gloire à Dieu !» Alors les frères essuyèrent leurs larmes, gagnés par sa joie. Élie se retira sans mot dire. Toute la nuit, François fredonna des psaumes et des chants. Le lendemain matin, un nouveau vaisseau venait de jeter l'ancre. Un jeune étranger accourut, agité, au petit couvent. « Où est notre père François » supplia-t-il. « Ici, » dit Élie, qui portait à son malade une poignée de fruits mûrs. Le frère tomba à genoux devant le lit de paille, riant et pleurant, et dit « Mon père chéri, mon cher petit père, vous vivez, Dieu soit loué. On vous croyait tué par le sultan. Je viens d'Assise, revenez vite. Si vous le pouvez, revenez vite. Tout est sans dessus dessous à force de disputes et de haine. Je me suis enfui pour vous chercher, pour vous raconter tout au nom de beaucoup de frères et vous rappeler. Hélas, les ministres ont fait des lois nouvelles, une espèce de règle bénédictine, toutes contraires à vos idées. On a multiplié les jours de jeûne, imposé le silence perpétuel. Il n'y a plus de liberté. Il est permis de bâtir des maisons, de grandes maisons où l'on enferme de nombreux frères pour y vivre sous une discipline austère. À Bologne, frère Pierre Stach a changé une grande et belle maison en couvent où l'on étudie et lit des livres. Il n'est plus question de pauvreté. Et les frères envoyés à d'autres provinces partent munis de lettres de recommandation auxquelles vous étiez si opposés. Et, assez, gémit François, tout cela n'est pas l'évangile. Foin de ces lettres, de ces règles, de ces maisons. Malheur à Pierre Stach. Ils quitteront cette maison. Je les en chasserai moi-même. Adossé au mur, il haletait rouge de colère. Les frères accoururent voir ce qui se passait. « Allez-vous-en, » leur dit Élie, qui avait écouté ce discours avec son mystérieux sourire. « Non, » cria François, « ils doivent l'entendre. » Le messager reprit. « Il est question de ne plus admettre aucun frère sans une année de probation, un noviciat, et aucun frère ne peut voyager sans lettre de son ministre. La révérende mère Claire, elle aussi, doit subir la loi. » Philippe le Long, un des 12 premiers frères, a aidé à monter le coup. Mais Claire a refusé énergiquement. « Vous pouvez m'enlever tout, m'imposer tout, » a-t-elle dit. « Mais vous ne m'enlèverez point la pauvreté. »« Que c'est beau !» cria François. « Ô sainte Colombe, véritable sœur !»« Et qui n'obéit pas, » poursuivit le frère, « est harcelé, maltraité, chassé comme un chien galeux. Partout la révolte et les méchants sont les maîtres. » Ceux qui entendent de continuer la vie selon votre esprit, on les traque comme du gibier. Ils fuient leurs ermitages, errent en gémissant dans les bois et les montagnes. Quelques-uns de désespoir ont perdu la raison, d'autres jettent le froc aux orties. Il y en a qui veulent fonder un ordre nouveau. C'est ainsi que frère Chapeau a rassemblé une bande de lépreux, lui aussi veut fonder un ordre. Hélas, notre bon père, partout c'est la confusion, le désordre et la misère. Vous seul pouvez tout réparer. Et le pape, et le cardinal, notre protecteur, savent-ils tout cela? À ce qu'il paraît. Il semblait qu'un tourbillon secouait François. Il tourna sur lui-même, battant l'air de ses bras. Mon Dieu, à l'aide, cria-t-il d'une voix rauque et tremblante, et du sang coula de ses yeux. On a emprisonné vos petites alouettes. Donnez-moi la force de les délivrer. Accompagnez-moi, Pierre, Élie, César, aidez-moi, ô mes pauvres yeux. Brisé de douleur, mal de l'âme et des yeux, il tomba dans les bras d'Élie en sanglotant comme un homme perdu. Le voici enfin arrivé à Rome pour faire ses doléances. « Vous êtes un poète, » dit le cardinal à François, assis tout courbé, haletant et fatigué, un bandeau sur les yeux, sa main dans celle de frère Pierre. « Ce que vous venez de me dire est parfait, » poursuivit le cardinal, « pour vous seul. Mettons pour 7, pour 12, non pour des milliers. Il faut y aller avec prudence et sens pratique. Canalisez votre idéal. » Sinon, il tournera à l'hérésie. Et cela ne sera point. » Et de son poing maigre, il frappa sur la table en fixant des yeux enthousiastes sur le bandeau de François. « Cela ne sera point. Votre idéal est trop beau, il est le plus beau. Mais que peut un essaim errant? Il ne fait son miel que dans la ruche. Ce sont pourtant les mêmes abeilles. Il est temps d'épurer l'ordre, de le vanner. Les vauriens et les paresseux doivent en être chassés. C'est pourquoi une discipline et un noviciat sont nécessaires. Ordonnez, votre idéal sauvera l'Église et le monde. C'est une lumière dans la nuit de notre temps. Cela ne vous suffit-il pas? Mais c'est immense. Remerciez Dieu de vous avoir appelé en ce monde pour cela. Est-ce que vous voudriez vous sauver tout seul? L'individu ne doit-il pas se sacrifier pour la communauté? Votre sacrifice est le triomphe même de votre idéal. À quoi vous demande-t-on de renoncer? À la liberté ailée, comme vous dites, mais une liberté corporelle quand même. Cela coûte à une nature telle que la vôtre, mais là sera votre grandeur. Ce n'est pas évangélique, objecta François. Pouvez-vous mieux imiter l'Évangile qu'en écoutant Jésus, qui demande l'humilité et le sacrifice? Vous qui vénérez l'humilité comme le bien le plus élevé, pouvez-vous en donner un plus éclatant exemple? D'ailleurs, François, ne considérez pas l'œuvre d'un seul jour. La présente réforme n'est pas définitive. On y a mis trop de hâte par nécessité pour éviter les défections trop nombreuses. On a commis des fautes, je l'avoue. Je ne suis qu'un homme après tout. Et j'approuve que vous ayez fait évacuer la maison de Bologne, bien qu'elle appartienne à l'Église et que les frères n'en eussent que l'usage. Il est vrai aussi que les ministres ont fait preuve d'un zèle inconsidéré dans l'application des nouvelles règles. Il faut le temps. Si vous mettez votre confiance en moi, tout sera mené à bien. De même, j'admets volontiers qu'on a eu tort de forcer Sœur Claire à accepter des biens. Désormais, elle pourra vivre en entière pauvreté. Nous rejetons aussi le projet de Frère Chapeau. Nous recommençons à construire sur des bases nouvelles. Nous n'enlèverons rien à votre idéal. Nous le réglons seulement. Votre esprit doit animer tout le mouvement comme un levain. Exposez-moi vos idées, je les réaliserai de telle sorte qu'elles puissent vivre. C'est pourquoi je vous en supplie. Écrivez dans ce sens pour le prochain chapitre de Pentecôte une règle nouvelle qui ramènera la paix parmi les frères et en fera affluer de nouveau. Vous le pouvez. Tout le pays n'est qu'un cri de joie à cause de votre retour. On vous écoutera. Le salut est dans vos mains. Refusez-vous de vous sacrifier, votre ordre périra et le monde avec lui. Il y eut alors un silence. François demeurait immobile comme de pierre. Monseigneur haletait de fatigue et s'essuyait le front. Il se mit à arpenter la chambre. François ne bougea pas comme privé de cœur. Ce silence écrasait le cardinal. Il s'approcha du poverello, lui mit sa blanche main sur l'épaule. « François, il faut vous reposer quelque temps. Dans les forêts du Casentin, j'ai visité un jour l'ermitage où vécut Saint Romuald. Voilà ce qu'il vous faut. Le repos vous obtiendra l'inspiration et la santé. Et l'hiver prochain, vous pourrez retourner à Notre-Dame-des-Anges. » Un nouveau silence, très long, qui faisait mal au cardinal. François se courba davantage encore, secoua lentement la tête, puis se leva et dit d'une voix sans timbre, mate et sombre, comme sortant d'une tombe, « J'écrirai une nouvelle règle, et désormais c'est frère Pierre qui gouvernera ma place. » Frère Pierre le reconduisit. Monseigneur le considéra avec joie et étonnement, et avant que la porte se refermât, François se retourna une fois encore et les doigts sur son bandeau, il dit « Monseigneur, vous serez le prochain pape. » Et Monseigneur était sur le point de répondre « Et c'est moi, dans ce cas, qui vous canoniserai, mais il se tut et effaça du doigt une larme. » C'est là, dans ces sombres forêts du Casentin, si bonnes pour ses yeux, si propices à l'oubli de ses peines. Personne ne vous y vient déranger. Il n'y a là que la nature, telle qu'elle est sortie des doigts de Dieu. Et l'on finit par s'identifier avec elle, par se croire soi-même une fleur. On communie à la vie des arbres, de la terre, de la mousse, de la pluie et des bêtes, et cela vous va jusqu'à l'âme. Voyez ces rouvres vieux de 1000 ans, et toujours jeunes, graves et forts, leurs terribles racines agrippées aux rocs moussus. L'esprit écoute leur force et leur murmure. L'esprit écoute un tintement. Entendez-vous l'égouttement de ce filet d'eau, mince comme une paille, qui tombe de roc en roc, toc toc, tic tic. Cela dure ainsi des jours, des mois, des années, toujours. Que quelqu'un soit là ou non pour l'écouter. Pourquoi ? Pour qui ? L'esprit qui écoute entend Dieu. Il entend Dieu travailler en toutes choses, dans les couleurs, dans une feuille qui pourrit, en tout. Il entend la bonté de Dieu, sa sagesse, sa providence. Il admire et prie sans parole. Voilà le repos. Ainsi vivait François dans la forêt, avec les frères Jacques, Genièvre et Léon. Il était assis sur une pierre près de cette source. De brins de mousse mouillés à ce filet d'eau, il rafraîchissait ses yeux douloureux. Ses yeux, martyrs continuels, c'était comme s'ils étaient pleins de cendres brûlantes. On serait tenté de les arracher de leurs orbites à coups d'ongles. Il ne pouvait les garder ni ouverts ni fermés. Et l'eau en coulait toujours comme le jus d'un citron. Mais il ne se plaignait point. Qu'était cette douleur comparée à celle du Christ et à la peine de son propre cœur au sujet de son ordre ? Son ordre, qu'allait-il en faire ? en ôter le muscle, le nerf, l'âme. Alors il se traînait par terre en gémissant. « Oh Dieu, pas cela, non, pas cela !» Mais un peu plus chaque jour, la pureté de cet infini silence endormait son angoisse. Il oubliait de préparer sa nouvelle règle, et quand il lui arrivait d'y réfléchir, il en remettait la rédaction. Tout cela était si loin de lui, comme un vague rêve, et devenait de si peu de poids quand l'esprit écoutait Dieu. Il sourit. D'entre ses paupières tuméfiées, il vit frère Jacques, au pied du rocher, donner à manger à une bande de lapins sauvages, et très loin, entre les arbres, se dressait le rude sommet de l'Alverne. Deux fois déjà, il était allé d'ici rendre visite à frère Loup, ou frère Agneau, si vous préférez. Ah, voilà un frère mineur, un vrai, d'une pièce. Frère Genièvre sortit de l'ermitage et frappa dans ses mains. Le signal pour appeler au chant du psaume de midi. François descendit. Dans l'épaisseur du bois, il entendit soudain de nombreux chants d'oiseaux. « Frère, dit-il, attendez, écoutez donc nos frères les oiseaux en train de louer le Créateur. Allons-nous mettre là pour chanter notre psaume ?»« Volontiers. » Et à leur approche, les oiseaux ne s'envolèrent point, mais reprirent de plus belle. Les quatre hommes chantèrent la gloire de Dieu, mais les oiseaux, redoublant leur concert, les moines ne s'entendirent plus eux-mêmes. François alors s'écria, « Frère oiseau, vous êtes des centaines, nous ne sommes que quatre. Voulez-vous vous taire un peu, jusqu'à ce que nous ayons fini ?» À l'instant, les oiseaux se turent, écoutant avec respect le chant humain. « Et maintenant, dit François, allez-y à plein gosier. » Le cœur ailé reprit ses trilles, ses appels, ses gazouillis, ses roulades, l'air en vibra. La main dans la main, les quatre écoutèrent, recueillis. Noël était proche. La neige tombait à gros flocons moelleux. À la portion cul, rien ne bougeait. Dans le silence blanc, la chute des flocons. En y regardant bien, François, comme un bloc de terre. Le capuchon sur la tête, il contemplait du seuil de sa cabane la neige. « Notre sœur la neige !» murmurait-il parfois. Alors il étendait sa maigre main hâlée jusqu'à ce qu'un flocon s'y déposa. Dans sa paume froide, les flocons fondaient à peine. Il contemplait, en souriant, ce minuscule nuage de 1000 petites étoiles de cristal qui s'éteignaient une à une jusqu'à ce qu'il ne resta plus qu'une goutte d'eau. « Oh » soupira-t-il, « que le bon Dieu a donc fait de cas de chaque flocon ?» Ses yeux n'étaient pas mieux encore. L'eau qui en découlait sans cesse avait creusé de chaque côté de ses narines une ride rouge. La porte d'une autre cabane s'ouvrit et frère César parut, qui était revenu de Syrie. Il portait un parchemin, une plume et un encrier. François soupira. Ensemble, ils entrèrent et frère César ranima le petit feu qui, sur le sol battu, achevait de s'éteindre. Il y plaça quelques ramilles sèches et alla fermer la porte. « Laissez-la ouverte, demanda François, afin que je voie notre sœur la neige. Elle est si blanche pour nous faire comprendre combien notre âme doit devenir blanche, elle aussi. » Toute la tête blonde de frère César souriait. Il déposa le parchemin sur une planche que soutenaient ses genoux et la plume d'oie à la main, prêt à écrire, il attendit. « Où en sommes-nous ? Demanda François. « Que nous devons d'abord donner nos biens aux pauvres. » Ajoutez que nous ne garderons rien, ni livres, ni... » Le cardinal désirerait que les novices aient plus de vêtements, suggéra César avec prudence. Car dès qu'il était question de noviciat ou d'un point contraire à la vieille règle, François se rebiffait, le visage rembruni, le cœur et les lèvres serrées. « Voulez-vous que j'écrive deux bures. François vit la belle neige et murmura. Dieu envoya notre sœur la neige pour protéger les graines dans le sol. Dieu prend soin de la graine, de tout, mais dans leur peu de confiance, les hommes demandent deux bures. Et se levant brusquement, il cria. Mais ajoutez ceci. Par la sainte charité qui est Dieu, je prie tous les frères de se délivrer de tout obstacle, soin et souci, afin de pouvoir librement servir Dieu, l'aimer et le vénérer d'un cœur pur et avec une intention droite. César écrivait et François dictait dans une inspiration ardente. À tel passage, il trouvait l'occasion de rappeler encore la règle ancienne. Il en parlait si bien que César en oubliait d'écrire. Puis il fallait encore céder sur un point. César le lui faisait remarquer. Mais après la concession, jaillissait de nouveau une objurgation, un cri de l'âme qui la restreignait. François chantait ses prières, criait ses invocations. Ça et là, des portes de cellules s'ouvraient, et des têtes de moines écoutaient, immobiles d'admiration. César ne pouvait pas le suivre, lui demandait de répéter. François reprenait en termes plus véhéments. Après une heure et demie, il n'en pouvait plus. « Demain, nous continuerons, frère César. » Haletant, épuisé, comme consumé, il s'assit près du feu et réchauffa ses doigts glacés. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.